Pour cette première rencontre, nous aurons une heure avec les représentants de la liste Lutte Ouvrière, à savoir Mélanie Perrot et Jean-Yves Arthur. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je vous propose de commencer tout de suite, en entrée en matière, par la voix des citoyens qui se sont exprimés au micro d'Odette et Mado sur l'importance des municipales et leurs attentes.
Si, non, c'est super important pour rénover notre ville, quoi, pour essayer d'améliorer un petit peu notre ville, mais il y a du boulot. Quoi.
Et qu'attendez-vous du maire?
Un gros changement de politique. C'est-à-dire qu'on pense un peu plus aux gens qui travaillent.
J'attends du changement et j'attends qu'il fasse des choses intéressantes au niveau de la ville d'Évreux.
Vraiment, bah, plus peut-être de travail. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un travail, mais développer un petit peu plus les structures pour que les gens aient plus d'emplois, quoi. Voilà. Un petit peu plus de commerce parce que ça se meurt pas mal sur Évreux.
Elles sont importantes parce que ça va donner un cap pour la ville sur les années à venir. C'est un mandat de 6 ans. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de cap. Et puis en même temps, c'est certainement le développement économique d'Évreux ou la descente d'Évreux. Donc il faut vraiment prendre le bon cap.
Bah, c'est une manière pour les habitants de la ville d'Évreux et de toutes les communes de s'exprimer sur le bilan de la municipalité sortante et sur les propositions qu'ils vont faire pour les 6 années à venir.
Voilà, donc c'était des extraits des rencontres que nous avons eues dans les rues hébroïciennes sur bah voilà, qu'attendre de la politique municipale. Mélanie Perrot, Jean-Yves Arthur, un petit rebond sur ce micro-trottoir.
Bah écoutez, moi j'ai retenu, enfin je trouve ça très intéressant, toutes les remarques qui ont été faites. J'en ai retenu deux là, quand même, qui étaient mises en avant. Pensez aux gens qui travaillent, hein. Et une autre dame qui dit plus d'emplois, plus de commerce, hein, voilà. Bah écoutez, nous, enfin ça me conforte dans le fait que dans la campagne qu'on mène nous en ce moment, et puis enfin quand même. Enfin, je veux dire, élection ou pas élection, on mène toujours campagne, nous, pour défendre les intérêts des travailleurs. Et effectivement, je suis bien d'accord avec eux. C'est aussi l'enjeu de ces élections. Alors, bien sûr, c'est pas au niveau du maire, d'une municipalité, que le problème de l'emploi sur Évreux sera résolu, enfin, sur Évreux ou sur ailleurs. Mais par contre, faire entendre des idées qui viennent des travailleurs pour avoir du travail, dénoncer le chômage, comment le résorber, etc. On en rediscutera, j'espère. C'est notre enjeu, en tous les cas, dans cette campagne.
L'importance du scrutin municipal et son enjeu, quel est-il pour vous ?
Il est, comme l'a dit d'ailleurs monsieur dans le petit reportage, il est de s'exprimer. Voilà. Nous, ce qu'on dit, hein, notre liste, ça s'appelle « Faire entendre le camp des travailleurs hein, ». Et ça sert à ça pour nous, les élections. Si ça changeait la vie, eh ben, ça fait longtemps qu'on l'aurait vu, qu'on s'en serait rendu compte. Par contre, c'est vraiment l'occasion de voter ou se dire d'accord avec des idées sur la société. Hein. Nous, on prend très au sérieux cette élection. C'est sur l'organisation de la société actuelle.
On voit l'enjeu que vous mettez autour des municipales. Je vous propose tout de suite d'écouter un deuxième petit sujet qui nous amènera au rôle de l'homme politique.
Oui, je crois que je poserai comme question de quel pouvoir il pense avoir aujourd'hui par rapport à la communauté d'agglo, par rapport aux pressions européennes. Quel pouvoir il pense réellement avoir? Parce que moi, j'ai un doute là-dessus.
Globalement, la question, c'est quel est le pouvoir finalement d'une équipe municipale? Mélanie Perrot, Jean-Yves Arthur.
Bon, ben moi, ça me fait rigoler quand cette femme dit parce que j'ai un doute là-dessus. Bon, moi aussi, j'ai un doute là-dessus. Je pense que le pouvoir du maire, des maires, hein, ils sont excessivement limités. En tous les cas, sur ce qui préoccupe les gens au quotidien. On parlait de l'emploi, on peut parler des salaires, on peut parler du fonctionnement de cette société, voilà, qui fait bosser les plus vieux encore plus longtemps et puis les jeunes qui n'arrivent pas à trouver du boulot, etc. Donc sur tout ça, le maire, il n'a pas de pouvoir parce que le pouvoir économique, c'est les capitalistes, c'est les patrons qui l'ont.
Hein. Il a des leviers quand même, le maire d'une commune, en principe.
Alors,
l'attractivité d'un territoire, on en reparlera plus tard dans l'émission, mais il y a quand même une action de la ville qui doit être mise en place sur ces points-là, tout de même, non ? Il y a un pouvoir, même s'il n'est pas complet, il y a un pouvoir, non ?
Il est limité, excessivement limité, et je pense d'ailleurs que c'est un leurre de laisser penser aux gens que c'est le maire qui a le pouvoir. Voilà, que, et de même, regardez, Hollande, hein, ça fait des mois là, qu'il nous parle de inversant de la courbe du chômage. Bon, voilà, même au niveau plus haut de l'État, il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de Hollande d'embaucher ou de ne pas embaucher. Ça dépend de PSA, ça dépend du groupe d'investissement de Chapitre, de Forestia. Je cite là des entreprises qui ferment ou qui licencient sur Évreux. Hein. Donc voilà, et nous, on est pour que les travailleurs, le monde du travail dans son ensemble, ben, on se défende face aux attaques de ses patrons, hein, et qu'on renverse la tendance. Alors voilà, ce ne sera pas le pouvoir du maire. Par contre, le maire, il peut accompagner, évidemment, toutes les grèves, toutes les luttes des travailleurs.
La double compétence de l'agglomération et de la commune, parce que c'est l'équipe en place à la municipale qui, en tout cas, du pouvoir aussi à l'agglomération, et notamment l'agglomération d'Évreux. Est-ce que les deux compétences mêlées donnent quand même plus de possibilités ?
Alors, à l'agglomération, ce que je vois, mais de même à l'échelle d'une municipalité, ce que je vois, c'est que, par exemple, par rapport à la politique économique d'une ville, bah, bien souvent, c'est encore faire des cadeaux au patronat, c'est encore baisser les charges, ou baisser les cotisations patronales, c'est créer des zones où ils n'auront pas d'impôts à payer pendant plusieurs années, etc. Et ça, que ce soit à l'échelle d'une mairie ou à l'échelle d'une agglomération, avec ça, nous, on le dénonce, on n'est pas d'accord.
Lors des micro-trottoirs de Mado et Odette, un thème très fort est ressorti régulièrement. Je vous propose d'écouter un court extrait et nous revenons juste derrière.
Bah, est-ce qu'ils vont faire leur travail ?
Est-ce qu'ils vont faire leur travail ?
Voilà.
C'est-à-dire ?
Bah, est-ce qu'ils vont... Ils vont faire en sorte de tenir leurs promesses, puis d'arranger les choses qui se passent ici et ailleurs.
Est-ce que vous êtes capable de tenir les promesses, voilà, d'accord, que vous faites ?
D'accord, merci.
Oh là, c'est important, je sais pas, parce que je suis un petit peu perplexe par rapport aux élections, par rapport à tout ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens se battent pour une place, et puis maintenant, est-ce qu'il y a du résultat derrière ? Est-ce que, je sais pas, je suis un peu sceptique, quoi.
D'accord.
Nous avons... Voilà, à travers ces reportages, constater pleinement ce manque de confiance envers les politiques. Mélanie Perrault, Jean-Yves Arthur de Lutte Ouvrière, une remarque là-dessus ?
Eh bien, moi, je les comprends. Hein. Il y a de quoi être dégoûté, effectivement, du monde politicien. Nous, voilà, on fait de la politique au quotidien, hein, et donc on n'est pas dégoûté de la politique. On pense que les travailleurs, il faut qu'ils en fassent de la politique pour défendre leurs propres intérêts, hein, et qu'ils arrêtent de faire confiance, effectivement, à des politiciens professionnels, oui, qui leur mentent, oui, qui leur font des promesses qu'ils ne tiendront pas. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, ben nous on pense qu'il y a tout un programme à défendre pour les travailleurs. Hein. Et quand je dis les travailleurs, voilà, des plus jeunes aux plus âgés, bien sûr. Hein. Bon, ensuite, ces promesses, pourquoi est-ce qu'ils les tiendront pas ? Ben, comme on a dit, parce que le pouvoir fondamental dans cette société capitaliste, c'est pas le pouvoir politique qu'il a aujourd'hui, c'est les patrons, c'est eux qui peuvent nous embaucher, ne pas nous embaucher, à quel salaire, etc. Donc nous on pense que s'il y a des promesses à fin, comment dire, tout ce qu'on veut mettre en place, il va falloir le faire en prenant sur les profits des patrons. Voilà, l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Il faut que les travailleurs, ils aillent le chercher.
Très bien, je vous propose de commencer avec la première pause musicale qu'on vous a demandé de ramener. Le premier titre choisi, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bien sûr, c'est l'International, le chant des travailleurs. On ne pouvait pas, je pense, commencer cette émission sans cette chanson-là, qui vraiment, si on écoute attentivement les paroles, défend tout le programme et tout le monde que ça pourrait être si les travailleurs le dirigeaient.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison venant sur la terre, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte.
L'international, bien entendu, choix proposé par Mélanie Perrault et Jean-Yves Arthur qui mènent la liste lutte ouvrière.
Je m'interrogerai sur qu'est-ce qui les motive à se présenter en tant que maire de la commune.
Alors c'est également une de nos préoccupations, une de nos particularités. Je disais en début d'émission qu'il y a notre patte dans cette émission. Nous attachons beaucoup aux questions humaines. Qui sont les humains derrière le candidat? Qui sont les humains derrière un projet politique? Pour répondre à ces questions-là, j'accueille Fabien Tassel en plateau. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Voilà, sur ces questions plus humaines.
Oui, tout à fait. En fait, on voulait connaître un peu... la femme, sa vie, son œuvre, voilà, si vous pouviez éventuellement vous présenter, sans aller forcément trop dans la vie personnelle, mais de savoir quelle est la candidate, en tout cas. Donc on voulait savoir, par exemple, quel âge avez-vous ? Vous avez quel âge, tout simplement ?
J'ai 30 ans.
Ça se fait pas hein, pour une dame, hein, excusez-moi.
Aucun souci, je n'ai rien à cacher.
Voilà, alors on sait que vous avez sûrement des préoccupations citoyennes. Quelles sont vos motivations aujourd'hui pour justement briguer ce poste de maire ?
Alors oui, je suis candidate dans ces élections, mais je suis avant tout une militante. Je suis militante de lutte ouvrière depuis que je suis étudiante, depuis plus d'une dizaine d'années. Mmh. Et mes motivations, elles sont profondes, mais je veux dire en temps d'élection pour en temps d'élection. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vous répondre, parce que ce qui m'anime dans cette campagne, c'est ce qui m'anime en permanence. Moi, j'ai envie que cette société, elle change. Voilà. Les inégalités, elles se creusent de plus en plus. On vit dans un des pays les plus riches et pourtant la pauvreté, elle augmente. Et donc, moi, ce que je veux, c'est à travers ces élections, mais comme tout le temps, c'est les dénoncer et puis aller vers une meilleure société.
Votre rencontre avec la politique, Mélanie Perrault, Jean-Yves Arthur, à quel moment est-ce que vous avez rencontré la politique et quel est l'élément qui vous a amené à vous engager au-delà du programme politique, hein, vraiment plus humainement, voilà, votre rencontre avec la politique.
Tu veux commencer ?
Ma rencontre.
Alors, bien dans le micro, s'il vous plaît, monsieur Arthur.
Avec la politique.
Allez-y, avancez-vous.
Je l'ai eu à 21 ans, dès que lutte ouvrière, donc Arlette Laguiller, s'est présentée à ses premières élections.
Alors moi, c'est pas au niveau d'élection, c'est ma grande sœur qui avait rencontré lutte ouvrière à la fac, et puis qui m'en a parlé, et puis voilà, alors mes parents d'aller dans les manifs, etc. Et ben moi, je me suis tournée, enfin, j'ai été curieuse, quoi, j'ai été voir qu'est-ce que c'était ces idées communistes, comment on est en 2000, il y a encore des communistes, mais le communisme, c'est l'URSS, etc. Voilà. Et je me suis rendu compte à la lutte ouvrière que, non, la dictature qui s'était développée en URSS, c'était du stalinisme, ça voulait pas dire que c'était une société communiste qui avait été, qui s'était développé, etc. Voilà. Et ça m'a permis surtout de comprendre le fonctionnement du monde. Et je pense que pour le changer, il faut avant tout le comprendre.
Est-ce que vous avez des hobbies, des passions, en dehors de la lutte politique, qu'est-ce qui, je ne sais pas, le dimanche, quand il n'y a pas de lutte à mener, comment occupez-vous vos journées, vos hobbies, vos passions ?
Alors, la politique me prend beaucoup de temps, mais c'est un plaisir. Hein. Après, j'adore, souvent j'ai des temps de trajet assez longs, donc j'aime beaucoup lire pendant ce temps-là, j'aime bien aller au cinéma, j'ai un peu les passions ou les loisirs de tout le monde.
Moi, ma passion, c'est le jardinage et aussi le sport. Actuellement, je fais du VTT, mais dans le passé, je faisais de la course de fond, je fais beaucoup de natation. Et la montagne.
C'est bien, on se complète, parce que moi, c'est pas du tout ça.
Alors, j'aurais voulu vous poser une question sur votre cursus scolaire et votre métier. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui ?
Alors, comme études, j'ai fait une fac d'histoire, histoire socio, puis ensuite je me suis spécialisée en histoire et je suis devenue professeure d'histoire. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille dans un collège en tant que professeure d'histoire-géographie.
Vous enseignez alors ?
J'enseigne, exactement.
D'accord.
Jean-Yves Arthur ?
Moi, comme études, certificat d'études, et j'ai pris le travail à 16 ans dans l'imprimerie pendant 38 années. Et actuellement, suite à un licenciement de l'imprimerie, je travaille dans une autre société qui est connue dans toute la France.
Très bien. Dans nos préoccupations, nous avons des spécialistes du sport, voilà, notamment le patron du Café des Sports qui a essayé de vous avoir par téléphone, Mélanie Perrault, durant la préparation de cette émission. Voilà, vos plannings n'ont pas réussi à se croiser, ce n'est pas dramatique. Mais le patron du Café des Sports m'a demandé de vous poser quelques questions sport. Vous allez voir, les réponses sont très brèves et les questions très directes. Première question, quelle pratique sportive avez-vous eue, Mélanie Perrault?
Très très faible ma pratique sportive, mais c'est la natation, c'est ce que je préfère.
Dans quel gymnase ou lieu de pratique de sport pouvons-nous vous croiser?
Voilà, ce sera seulement à la piscine.
Quelle est la place du sport dans la dynamique d'une agglomération de 80 000 habitants?
Alors, elle est sûrement assez importante. Enfin, je veux dire, c'est, pour moi, ça fait partie des loisirs comme les autres. Et ce qu'il faudrait, c'est en tous les cas, dans les quartiers populaires, dans les milieux les plus populaires, qu'il y ait encore plus d'encadrants, encore plus de moyens à disposition des jeunes et des moins jeunes pour faire du sport. Mais enfin, je répète, moi, je pense que c'est pour les loisirs en règle générale.
Au Café des Sports, ils débattent très régulièrement sur la dualité sport de masse et sport d'élite. Quel est votre sentiment là-dessus?
Oh bah sûrement sport de masse. Non, moi ce que je serais pour qu'il y ait qu'on puisse aller vers tout un tas de sports, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans tous les cas, dans les quartiers populaires, parfois l'offre elle est limitée, pas tout le temps. Enfin, ça dépend, voilà. Mais sport de masse. Puis surtout qu'on va celui qu'on a envie, quoi.
Concernant les subventions autour du sport, la précédente mandature a fonctionné à budget constant. Quelle serait votre ligne de conduite?
Là, il faudrait. Alors, je ne peux pas répondre parce qu'à mon avis, il faudrait en discuter beaucoup plus dans le détail avec ceux qui connaissent à la fois le budget actuel, les besoins qu'il faudrait, etc. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que quand même actuellement, les budgets, notamment culturels, sportifs, ils sont plutôt en baisse parce que les dotations budgétaires des communes, elles baissent. Il faut trouver de l'argent. 50 milliards, l'État veut économiser pour donner aux patrons, sous forme de baisse d'impôts, etc. Donc, il faudrait regarder ça de près. Mais enfin, moi, je pense que ça devrait être. Une des priorités, mais enfin, la priorité, c'est aussi l'emploi, c'est aussi déjà que tout le monde ait un salaire pour profiter des loisirs.
La municipalité sortante a réhabilité une partie du parc sportif et différé la grande salle de sport, spectacles et congrès. Quels seront vos chantiers sportifs pour Évreux?
Alors là encore, il faudrait qu'on discute avant de faire des propositions comme ça qui pourraient tomber du ciel, qu'on en discute sérieusement. Mais là, je répète, la priorité, c'est quand même que les budgets sont en baisse, donc c'est faux que de laisser penser que la culture, le sport, ça va être une priorité pour la mairie, d'accord. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que les budgets des mairies soient en augmentation, mais pour ça, que l'argent public, il serve au service public.
Très bien. Le Café des Sports sera sûrement très touché de vos réponses. Merci à vous.
Merci.
Je vous propose de lancer la prochaine pause musicale, un autre choix de vous, Mélanie Perrault. Vous pouvez nous parler de quel est le choix musical qui va suivre?
Oui, je crois que c'est Nina Simone. C'est Nina Simone, parce que c'est une de mes chanteuses préférées et qui dit plein de belles choses.
Nina Simone, c'est un choix de Mélanie Perrot qui mène la liste Lutte ouvrière.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour dynamiser un peu plus la ville ?
D'accord. Voilà, alors j'accueille maintenant autour des micros Rina. Bonjour Rina. Rina Lufuma.
Oui.
Voilà, excusez-moi, je me reprends sur l'introduction de cette émission. Alors vous, vous avez travaillé un peu plus sur Évreux dans l'espace, Évreux et le monde qui l'entoure, Rina.
Oui, parce que moi j'avais une question à poser. Donc c'était pour vous, quel était le rôle, on va dire, de Évreux dans le monde au niveau de l'attractivité du territoire ? Enfin, comment vous voyez Évreux et qu'est-ce que vous pouvez en faire ?
Alors, j'entends bien le mot attractivité. Moi, ce que je vois surtout d'Évreux, c'est quand même le nombre de gens qui me disent qu'ils n'ont pas de boulot, le nombre de gens qui me disent qu'ils cherchent et qu'ils n'en trouvent pas, le nombre de gens que je connais qui doivent quitter Évreux parce que le boulot, il est en région parisienne, ceux qui font la navette tous les jours. Bon, voilà. Et moi, c'est quand même notre préoccupation principale. Mais pourquoi ? Parce que c'est la préoccupation principale des travailleurs, en règle générale, hein, qu'on soit d'Évreux ou d'ailleurs.
Initialement, ce n'est pas d'ailleurs une compétence municipale, l'emploi, mais ça devient tellement une préoccupation qu'au bout d'un moment, les politiques locaux sont obligés de s'en emparer.
Oui, c'est vrai. Bah, les politiques locaux comme les politiques nationaux, oui, tout à fait. Par contre, voilà, nous, ce qu'on dénonce, c'est l'idée que le politique, il peut résoudre ce problème. Non, ce qui peut résoudre ce problème, c'est quand les travailleurs, ils vont forcer les patrons à interdire les licenciements, à augmenter les salaires, à répartir le travail entre tous. Voilà. Il y a des usines qui ferment à Évreux et il y a des usines où on sort de là, on est cassé parce que le travail, la charge de travail, elle augmente, parce que les cadences, elles augmentent. Bon, voilà. Ben, nous, on est pour la répartition du travail entre tous, que tout le monde ait un boulot et un salaire qui permette de vivre. Voilà. Donc, un salaire qui permette de vivre, c'est pas 1000 euros hein, actuellement, c'est bien plus, on le sait.
Vous nous dites ça, mais le rapport de force n'est quand même pas du côté du salariat. Clairement, enfin, il n'est pas favorable au salariat, le rapport de force entre le patronat et le salariat.
Actuellement, c'est vrai, il n'est pas. C'est vrai, la lutte de classe, c'est le patronat qui l'amène aujourd'hui. Et on voit bien que, pour l'instant, le monde du travail, il recule. Voilà. On se prend des coups de la part du patronat, bien aidé par le gouvernement socialiste, hein, qui fait des lois qui autorisent les patrons à baisser les salaires parce que sous prétexte que c'est la crise, etc. Bon, bah, qui c'est à qui on demande de faire des sacrifices ? Bah, aux travailleurs. Aux chômeurs, on leur demande de patienter. Hein, on va espérer quand même que ça ira mieux bientôt. Voilà. Ben non. La pauvreté augmente. Même quand on est en travail, on ne sait pas trop comment on finit le mois, voilà, souvent à découvert, etc., etc.
Là, on est sur le constat, effectivement, mais alors du coup, que peuvent faire des maires d'une commune, ou une liste plus exactement sur une commune, une équipe municipale, comment elle peut travailler là-dessus ? Quel levier est là et quelles seraient vos propositions ?
Bah déjà, c'est l'interdiction des licenciements, que la commune comme Évreux que je connais aurait pu déjà faire un gros effort quand il y a eu ces klaxos. Plus de 60 licenciements. Je pense que la commune n'a pas été assez présente sur le lieu et aider les personnes qui ont été licenciées. Et surtout éviter le licenciement.
Et moi, j'aurais une question. Enfin, pour dynamiser la ville au niveau, par exemple, touristique, vu qu'aussi il y a eu la circulation dans la ville, il y a eu des aménagements qui ont été faits. Est-ce que ce ne serait pas un plus pour essayer de dynamiser la ville d'Évreux afin qu'il y ait de nouveaux emplois, de nouvelles personnes qui puissent contribuer à la ville, s'installer, enfin...
Bah, Évreux, c'est une belle ville et c'est vrai que le centre-ville est agréable, etc. Mais je veux dire, là, moi je pense qu'on parle des gens qui vivent à Évreux, quoi, au quotidien. Hein. Le tourisme, c'est une chose, mais enfin, ça n'a jamais fait vivre une ville pleinement.
Ça génère de l'emploi tout de même.
Ça peut, non, tout à fait générer de l'emploi, mais ça ne peut pas être une solution au fonctionnement de toute la ville. Hein. Mais voilà, moi je travaille dans l'éducation nationale. Il y a besoin d'embaucher dans les écoles, dans les collèges. Il y aurait besoin de beaucoup plus de personnel encadrant pour faire du bon boulot. À l'hôpital d'Évreux, il y a besoin d'embaucher. Les infirmières, enfin, le personnel était en grève il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? Au contraire, c'est des suppressions d'emplois. Enfin, du travail, c'est pas ce qui manque. Le problème, c'est qu'il faut passer au-delà des patrons qui cherchent à faire des profits. Il faut organiser la société pour répondre aux besoins.
Dans Évreux et Évreux dans l'espace, c'était un peu le thème de ce plateau-là, en tout cas Évreux géographiquement, dans le déplacement. Il y a des questions nous qui nous préoccupent autour de la circulation de la ville, dans la ville par exemple, c'est des choses qui rentrent régulièrement des citoyens. La circulation dans la ville, les lignes de bus, la déviation d'Évreux, voilà, pêle-mêle un peu les thèmes autour du transport. Quelle est votre position à Lutte Ouvrière sur Évreux et Mélanie Perron en particulier ?
Nous, on est pour des transports gratuits, mais alors dans cette société capitaliste, la gratuité, elle n'existe pas, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye. Hein. Et donc, on est pour que ce soit les patrons qui payent. Parce que bien souvent, d'abord, nos déplacements forcés, c'est quand même pour aller au travail, ou c'est pour aller en trouver, enfin bon, etc. Hein. Donc, ce serait bien normal que tout ça soit pris en charge déjà par son patron. Et puis, c'est multiplier les transports collectifs. Hein. Moi, on parlait de Saint-Michel tout à l'heure, enfin en aparté, voilà, quand c'est un bus par heure parfois qui dessert Saint-Michel, bon bah c'est un problème. Mais enfin, on peut parler. Je pense par exemple tout un tas de gens qui font la liaison Évreux-Rouen par exemple pour aller travailler. Hein, et ben il n'y a pas de ligne ferroviaire directe hein, pour faire Évreux-Rouen. Enfin voilà, des aberrations comme ça qui servent pas du tout la population.
Très bien. Le temps avance et je vous propose de nous annoncer la pause musicale suivante, qui est une fois de plus un de vos choix, Mélanie Perrot.
Alors j'avais choisi Georges Brassens pour les gens qui sont nés quelque part, parce que en ces temps où de repli sur soi, où je trouve que voilà la société, enfin en tous les cas même la politique, elle va de plus en plus à droite, elle est de plus en plus réactionnaire. Ben moi ça me fait plaisir d'entendre des gens qui disent que voilà ben les frontières, on en a rien à faire et qu'on est tous des hommes et qu'on ferait mieux de s'en rappeler et puis de lutter pour ça justement et pas se laisser avoir par des replis nationaux.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leurs clochers qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rendent jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. preuve peut-être bien de votre inexistence. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Georges Brassens, un choix de Mélanie Perrot qui mène la liste Lutte ouvrière. J'accueille maintenant en plateau Michel Mendès. Bonjour.
Bonjour.
Alors Michel, vous avez quasiment envie de faire jouer nos candidats.
Oui, un petit peu. Alors sur cette nouvelle partie, on avait plusieurs thèmes, notamment les projets sociaux de territoire, l'îlot Saint-Louis, la SMAC, l'aménagement du temps scolaire, le handicap et l'écologie. Du coup, on vous propose de choisir
une tribune libre, et puis une tribune libre, un sujet libre.
C'est vrai. Et on vous propose de choisir trois thèmes. Du coup, qu'est-ce que vous avez choisi?
Alors on a choisi l'îlot Saint-Louis, l'aménagement du temps scolaire et bien sûr la tribune libre.
Allez, d'accord, ça marche.
Je vous propose qu'on commence tout de suite par l'îlot Saint-Louis. L'îlot Saint-Louis, c'est l'espace libéré par l'ancien hôpital. Énormément d'espace en plein cœur de la ville d'Évreux. Quelles sont vos idées?
Voilà, vous l'avez dit, énormément d'espace en plein cœur de la ville d'Évreux. Mais nous, on pense que sur tous ces territoires-là, enfin ce terrain-là, il faudrait qu'on organise un grand quartier avec des logements. Voilà, à des logements avec des loyers abordables, parce que c'est quand même tout le problème du logement actuellement. Hein. Et bon, bah pour ça, c'est possible, mais il faudrait par exemple que l'État, plutôt que de passer par des grandes entreprises immobilières qui cherchent à se faire de l'argent quand même sur les constructions, qu'il embauche, justement, on parlait du problème du chômage, de l'emploi, qu'il embauche des maçons, des architectes, etc., et qu'à prix coûtant, il fasse autant de logements qu'il y a besoin, de qualité, mais surtout avec des loyers abordables.
Surtout avec des loyers modérés, hein, parce qu'avec un salaire de 1 000 euros par mois, je ne vois pas comment on peut donner 500 euros déjà de loyer tous les mois.
Deuxième sujet tout autant épineux, c'est l'aménagement du temps scolaire qui sera opérationnel sur Évreux à partir de septembre 2014.
Alors oui, l'aménagement du temps scolaire, moi surtout ce que je voulais discuter à travers ça, c'est quand même le rôle qu'on donne à l'éducation nationale actuellement. C'est pas une priorité hein, d'éduquer les enfants, d'éduquer les jeunes des quartiers populaires. Moi ce que je vois dans mon travail au quotidien, c'est que les conditions de travail, elles se dégradent, aussi bien pour le personnel je veux dire, de collège, d'école, que pour les élèves, bien sûr. Ils en pâtissent. Hein. Moi, je travaille dans une banlieue populaire. Et ben, 24 par classe, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop si on veut être derrière tous les élèves et les faire progresser.
Alors, donc, l'aménagement du temps scolaire ne touche pas à cette partie, qui est quand même un constat important.
Mine de rien, c'est lié. Si, c'est lié, parce que c'est aussi derrière la logique de faire des économies sur les services publics et sur l'éducation nationale également. Hein. Donc, des embauches massives d'encadrants, personnel enseignant, mais pas seulement, hein, bien sûr. Et puis ça améliorera grandement la vie des jeunes des quartiers populaires.
Nous avions un troisième... Pardon, peut-être non. Jean-Yves Arthur, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'aménagement du temps scolaire?
Non, je pense que... Elle a tout dit sur l'aménagement du temps scolaire.
Très bien, dans le troisième sujet que vous avez choisi, il y avait ce qu'on appelle nous la tribune libre, un sujet au choix que vous souhaitez développer. Mélanie Perrot.
Oui, moi ce que j'aimerais mettre en avant, c'est quand même les préoccupations qu'on a tous les jours. On a parlé de l'emploi, on a dit que nous, notre solution, réponse à ça, c'est l'interdiction des licenciements. Et je dis, c'est pas voter pour lutte ouvrière, on va interdire les licenciements, non, hein, c'est les luttes des travailleurs qui peuvent le faire, évidemment. Mais voter déjà pour cette liste-là, c'est dire qu'on est d'accord avec, et dire qu'il y a un camp qui se fait pas avoir aux promesses des politiciens, et au final, qui sont pas avoir, comment dire, à la politique que la bourgeoisie amène aujourd'hui. Et puis j'aimerais aussi dire qu'il faudrait, c'est ça ma tribune libre, ce serait ça, c'est le contrôle des comptes sur les entreprises, voir où est-ce que l'argent que on génère, hein. C'est les travailleurs qui créent toutes les richesses dans la société. Je veux dire, les bus, ils fonctionnent pas s'il n'y a pas les chauffeurs de bus, les mécaniciens, etc., etc. Bon, contrôlons où passe l'argent hein, des entreprises. On a parlé de Glaxo, quand même, qui est une énorme boîte sur Évreux. Ben voilà, c'est une multinationale riche qui fait des profits, c'est des milliardaires hein, derrière, les actionnaires. Bon, cet argent-là, nous, on est pour qu'il serve à payer des salaires, à embaucher, etc.
Merci, merci de vous être exprimé sur ces trois sujets. Avant d'arriver sur le dernier plateau, la dernière ligne droite de cette émission, je vous propose la dernière pause musicale que vous nous avez choisie, Mélanie Perrot.
Alors c'est Bandiera Rossa, c'est une chanson révolutionnaire italienne, parce que j'aime aussi, je n'en ai pas parlé dans mes passions, mais en fait je trouve que j'aime aussi beaucoup l'Italie, donc c'était un petit clin d'œil.
Rosa, avec le meilleur accent que je pouvais. Bravo. Un choix également de Mélanie Perrot qui mène la liste Lutte ouvrière. Nous accueillons maintenant en plateau Aké. Alors Aké, la particularité d'Aké, c'est que c'est une très jeune électrice, elle a 19 ans. Aké, vous avez écouté, vous avez suivi avec attention nos échanges depuis le début de cette émission et nous souhaitons vous questionner autour de ce que peut-être vous n'auriez pas compris, ce qui vous interrogeait encore. Aké.
Bah bonjour, pour commencer.
Bonjour.
Donc je vous ai écouté, j'ai quelques questions à vous poser pour essayer de comprendre. J'aimerais savoir, comme vous parlez aussi beaucoup du monde du travail et de l'emploi, si vous comptez dans votre programme créer des structures ou des associations qui inciteraient les jeunes à trouver des emplois.
Alors, moi, ce que je pense, dans le fond, c'est que les jeunes, ils veulent bosser. C'est pas problème de structure, d'association, qui font que les jeunes, ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Non. Après, qu'il y ait des structures accompagnatrices, bah, y en a. Mais enfin, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de boulot. Voilà. Le chômage, il augmente et c'est pas pour rien. Hein. Et s'il y a un quart des jeunes qui arrivent pas à trouver du boulot, bon ben voilà, il faut s'attaquer à ça frontalement. Hein. Et ça veut dire en fait imposer aux patrons d'embaucher. Voilà. Tout à l'heure, je citais quelques domaines où c'est tout à fait possible d'embaucher. Il y en a plein d'autres dans la société. Et voilà. Et donc. Le chômage des jeunes, c'est un gros problème. Enfin, le chômage, quelle que soit, je veux dire, la période de la vie où on le vit, c'est quand même un énorme problème, évidemment. Parce que si on n'a pas de salaire, ben, voilà, c'est quasiment impossible de vivre. Et donc, moi, je pense que, effectivement, le monde du travail dans son ensemble, des plus jeunes aux mêmes retraités, hein, qui, voilà, moi, j'en croise, hein, des gens qui ont 500, 600 euros de retraite et puis qui disent qu'ils sont pris à la gorge, ben, c'est tous ensemble qu'on peut faire reculer le patronat.
D'accord. Et vous avez aussi parlé des conditions scolaires qui se dégradent. Et en fait, j'ai pas compris en fait ce qui se dégrade.
Alors, ce qui se dégrade, moi, je pense, c'est on peut parler des deux côtés. On peut parler, par exemple, du point de vue enseignant. Ben, ce qui va se dégrader, c'est par exemple qu'un enseignant absent, il va pas trouver de remplaçant. Enfin, il va pas trouver. Normalement, c'est quand même ses supérieurs, hein, qui sont censés assurer le fait qu'il y ait un remplaçant pour les élèves. Ben, de plus en plus, il n'y en a pas. Hein. Parce qu'en fait, l'éducation nationale, elle embauche pas au niveau des besoins. Voilà. Et la conséquence sur l'éducation des enfants ou des adolescents, c'est qu'eux-mêmes, du coup, sont dans des conditions de pire en pire. Quoi. Tout à l'heure, je citais 24 par classe. Pour beaucoup, beaucoup d'élèves, c'est trop. Parce que quand on a du mal à se concentrer, quand on a des difficultés, je suis au collège, donc quand on arrive en 6e, qu'on a déjà des difficultés scolaires précédentes, c'est très, très dur de les rattraper dans les conditions actuelles. Hein. Ce serait tout à fait possible, mais à condition d'être beaucoup moins nombreux par classe, d'avoir des enseignants relais, parfois d'aider un élève en particulier, mais tout ça, les conditions actuelles, elles nous l'empêchent, quoi. Elles nous empêchent de faire du bon boulot.
Parce que vous parlez des enseignants quand ils sont absents, qu'il n'y a personne pour les remplacer, mais dans certains lycées, lorsque des professeurs sont absents, il y a des professeurs du lycée qui remplacent des cours.
Alors, c'est même la politique actuelle, c'est d'obliger les professeurs à faire ça, effectivement, d'aller dans cette direction. Mais moi, je suis professeur d'histoire-géographie. Hein. Je me sens complètement incapable d'enseigner quoi que ce soit en mathématiques, en anglais. Enfin, et je ne vais pas vous faire la liste des disciplines, mais voilà, on a des spécialités, on a été formés pour ça. Faisons qu'il y ait un volant de remplaçants suffisant, hein, pour permettre justement qu'en face des élèves, il y ait des enseignants formés, bien formés à leur discipline. Moi, je pense que ce serait une meilleure solution.
D'accord.
Ok, avez-vous fait le tour de vos questions ? Non, vous en avez d'autres. On a encore 3 minutes.
D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour aménager ces conditions scolaires ?
Alors, des solutions miracles, il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il faut que les travailleurs, on compte sur notre propre force, sur le fait qu'on soit nombreux et sur le fait que c'est nous qui faisons tout tourner dans cette société. Donc, pour l'éducation nationale, comme pour les autres domaines de la vie, moi, je suis pour la lutte, quoi, pour que ce soit les enseignants, mais pas seulement, tout le personnel éducatif, et puis plus largement, que l'argent pour les services publics, il augmente, hein, et donc du coup aussi, forcer à ce que tout cet argent-là, il aille à l'amélioration des conditions de vie et des besoins qui répondent aux besoins des gens. Voilà. Qu'il ne soit pas un fonds perdu pour rembourser des banques, parce que c'est ça qui se passe quand même, hein, en ce moment, ou un fonds perdu pour subventionner le patronat.
D'accord, c'est bon.
Merci Aké pour ces questions très judicieuses. Moi j'avais 2-3 questions subsidiaires à rajouter, voilà, des questions de jeunes aussi j'ai envie de vous dire. La première qui est vraiment une question de vocabulaire, vous employez régulièrement cette notion de travailleur dans vos propos, voilà. On sent presque un héritage Arlette Laguiller dans la façon de mener le discours. Qu'est-ce que vous entendez par travailleur ?
C'est une excellente question. C'est vrai, c'est un mot où on est très attaché, hein, et on ne le changera pas pour un autre. C'est comme le mot de communisme. On est aussi très attaché, même si, je le disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas pour nous équivalent à la dictature stalinienne. N'empêche, oui, on est pour une société communiste. Travailleur, c'est toute personne qui n'a que ses bras, son cerveau, à vendre finalement à un patron pour vivre, pour toucher un salaire, voilà. Donc qu'on soit ingénieur, qu'on soit ouvrier dans une usine, etc., on est un travailleur, dans le sens où, si on ne reçoit pas de salaire à la fin du mois en échange de son travail, on crève. Voilà, on est dans une société capitaliste où c'est comme ça. Si on a de l'argent, on vit bien. Si on n'en a pas, si on n'a pas de salaire, et je ne vous parle même pas d'un bon salaire, on doit se refuser des choses, voire même vivre dans la pauvreté et la misère.
Merci. Je voulais voir également le lien avec Évreux. Voilà, c'est une élection locale avec des préoccupations très locales. Tout à l'heure, nous avons parlé un peu de vous humainement qui vous étiez, car c'est très important pour des citoyens qui vont le week-end prochain poser un avis sur une liste. Quel est votre lien avec Évreux dans l'histoire ? J'ai vu notamment que vous aviez été candidate en 2012 sur une législative sur une circonscription parisienne. Du coup, quel est votre lien avec Évreux ?
Alors, Évreux, j'y habite aujourd'hui, mais j'ai pas mal bougé dans ma vie. Donc, j'ai grandi autour de Toulouse, j'ai fait mes études à Paris. Donc, c'est depuis pas très très longtemps que j'habite Évreux. Ceci dit, je travaille encore en région parisienne, ça veut dire que je fais les trajets pour aller travailler. Et Évreux, je connais depuis plusieurs années cette ville. Voilà. Et puis, pour tout un tas de raisons, j'ai décidé après de m'y installer à demeure, mais voilà, c'est une ville que je pratique depuis plusieurs années.
J'ai envie de poser la même question à Jean-Yves Arthur.
C'est notre parcours, Jean-Yves.
L'attachement à Évreux et le lien avec Évreux.
Le lien avec Évreux, c'est parce que j'y suis né. il y a 59 ans déjà. Et j'ai jamais quitté cette ville, à part pour m'expatrier pour le travail, soit en Afrique, soit Paris, soit la Savoie. Mais je suis toujours revenu à Évreux. J'ai toujours gardé mon appartement en loyer, parce que j'ai pas les moyens d'avoir une maison. Je suis pas assez riche. Mais Évreux, j'aime Évreux et j'adore Évreux. Et je terminerai à Évreux.
Très bien. Je vous propose que nous passions aux questions citoyens. Je vous disais en début d'émission, Odette et Mado ont laissé traîner leur micro sur les rues hébroïciennes. Je vous propose, au-delà d'un petit jeu, vous avez combien de questions, Timothée ? Voilà, dites-moi tout. 7 questions, vous avez 7 questions. Je vous propose de me donner un chiffre entre 1 et 7. Comme ça, vous tomberez au hasard sur une question des citoyens. Nous en ferons plusieurs. Ah oui, là, c'est complètement aléatoire. Et au hasard, 3 ? Je vous propose d'écouter la question 3.
Parce qu'éventuellement, il pourrait y avoir un peu plus de femmes candidates pour Évreux.
Voilà, ça a été une question qui est venue comme ça spontanément. Votre réponse ?
Je crois que je suis bien tombée.
Je trouve aussi.
plus de femmes, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que sur 8 listes cette année, il y a 2 femmes qui mènent des listes, quoi. Lutte ouvrière et puis une autre liste citoyen. Ce que je sais aussi, c'est que dans mon parti, Lutte ouvrière, on a toujours tenu à mettre en avant des femmes. Hein. Voilà, Jean-Yves rappelait que Arlette, ça a été la première femme à être présentée et à briguer, quoi, la présidence.
Et avoir donné mon bulletin d'électeur pour Arlette Laguiller.
Voilà, et c'est quelque chose, ça reste une préoccupation que les filles, les femmes, elles fassent aussi de la politique et qu'elles se sentent en la matière, mais enfin comme partout ailleurs hein, d'ailleurs, les égales des hommes.
Très bien. 2, 1, 7 à part 3.
6.
Oui. 6.
Qu'est-ce qu'il compte faire par rapport au stationnement en centre-ville ?
D'accord.
Elle a une autre préoccupation hébroïcienne.
Alors on l'a un petit peu abordé à travers la question des transports tout à l'heure. Moi, je pense que comme le stationnement, comme les transports, hein, ça devrait être gratuit. Bien souvent, c'est quand même pour des raisons en plus de travail qu'on est forcé de se déplacer en voiture, etc. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit les travailleurs qui payent. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, gratuit ou pas gratuit, il faut que les salaires y suivent. Voilà. Il n'y a pas de raison que les augmentations, parce que derrière le mot stationnement, il y a quand même aussi les idées d'augmenter soit le stationnement, soit les amendes qui vont avec. Il n'y a pas de raison que ce soit les travailleurs qui les payent. Voilà. Ou en tous les cas, que leur salaire augmente au fur et à mesure qu'augmente le coût de la vie. Voilà, que ce soit quand on fait ses courses ou quand on va payer le parc-mètre.
On rejoue encore un petit tour avec un nouveau chiffre entre 1 et 7, pas le 3, pas le 6.
1 ?
Le 1.
Plus des endroits branchés le soir, quoi, la nuit, quoi, dans la ville. Quoi.
D'accord.
Parce que s'il n'y a pas de choses branchées, d'animation,
Aller manger des chips, mais globalement la question était autour des endroits branchés sur Évreux, la sortie finalement, la vie culturelle.
Ouais. Je suis d'accord avec lui, je partage cette impression. Après, il faudra discuter. C'est pas qu'une question de mairie, de municipalité. Bien sûr qu'il peut y avoir des lieux dédiés à ça. D'ailleurs, c'est ça en partie le cas. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est toute la question de la vie culturelle. Et moi, je pense que elle aurait intérêt à être la plus riche possible. Et pour ça, je suis désolée de le rappeler, mais ça veut dire qu'il faut des moyens. Ça veut dire qu'il y a derrière, il faut de l'argent. Et donc, de l'argent consacré aux loisirs, à ce service-là, quoi, rendu à la population, ça veut dire qu'il ne faut pas que de l'autre côté, ça fuit pour aller donner en baisse de charges, etc., au patron. Voilà, il faut faire des choix. Et je pense que c'est quand même le choix de la population, des besoins, répondre au maximum aux besoins des gens qui devraient être la priorité.
Une dernière question des citoyens, entre 1 et 7, pas la 1, pas la 3, pas la 6.
7.
7.
Les changements, c'est-à-dire qu'ils fassent des choses pour la population d'Évreux et pas ce qui a été fait actuellement, les voies réservées spécialement aux bus, un peu comme à la région parisienne, alors que nous avons une ville qui est, pas assez grande pour avoir fait des voies réservées spécialement aux bus et qui maintenant, le soir, nous dérange pour pouvoir rentrer chez nous et nous font perdre du temps.
Voilà, une question autour des transports et puis de l'aménagement de la circulation dans Évreux. Est-ce que la ville, déjà, elle est adaptée aux transports en commun, là, ce qu'évoquait ce monsieur autour des voies de bus et compagnie ?
En tous les cas, elle devrait l'être encore plus. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'auditeur serait d'accord avec ma réponse. En tous les cas, je pense qu'elle devrait l'être encore plus. Voilà. Mais c'est des coûts. Hein, c'est des coûts que devrait assumer et qui devraient, être financés en prenant sur les profits des entreprises pour améliorer, les conditions de circulation dans la ville.
Quelle question auriez-vous aimé qu'on vous pose aujourd'hui et qu'on ne vous aurait pas encore posée, la question que vous rêveriez avoir ? Et du coup, la réponse qui irait avec.
Ça pourrait être, pourquoi vous vous dites encore communiste, par exemple ?
Alors, pourquoi vous vous dites encore communiste ?
Merci beaucoup de me poser cette question. On se dit communiste parce que nous, on ne veut pas se résigner face à une société où les inégalités sociales, elles augmentent, elles explosent même dans le monde. Hein. Voilà, il y a un chiffre qui est peut-être passé un peu inaperçu, mais 85... milliardaires ont comme fortune ce qui correspond à 3,5 milliards du reste de la population. C'est-à-dire qu'en fortune, 85 personnes d'un côté accumulent ce avec quoi vivent la moitié de la population dans le monde. Voilà. Et ça, le capitalisme, il va creuser encore plus ces inégalités. Nous, on pense que la solution, elle est dans une société communiste, c'est-à-dire une société, évidemment plus égalitaire, mais où collectivement, on décide de qu'est-ce qu'on produit, où on le produit, comment on le produit, de manière à vivre dans un monde bien plus humain, j'ai envie de dire, agréable, et puis qu'on consacre du temps à autre chose que chercher du boulot ou se crever au boulot.
Nous avons une toute dernière question pour vous, Mélanie Perrault et Jean-Yves Arthur, qui menaient la liste Lutte Ouvrière. Quelle vision avez-vous d'une radio associative locale ? Quel regard portez-vous sur notre travail et quelles attentes avez-vous de nous ?
Alors moi, je pour tout vous dire, je vous découvre. Hein, on se connaissait pas jusqu'à ce matin. Je pense que c'est important, évidemment, que vive tout un tissu local, associatif. Et vous savez, souvent on entend la société, elle est de plus en plus individualiste, et puis du coup c'est une façon de reprocher aux autres de rien faire et tout. Moi, ce que je pense, c'est que la société capitaliste, elle se serait écrouée depuis longtemps s'il n'y avait pas tout un tas de gens prêts à faire des choses pour les autres, bien sûr à se faire plaisir, mais voilà. Et tout le réseau de bénévoles, finalement, il est énorme dans notre société, et il pourrait justement, une autre société, elle pourrait s'appuyer sur toutes ces richesses-là. Hein. Et voilà, moi, j'ai tout à fait confiance dans l'humanité pour qu'on prenne notre sort en main et qu'on aille mieux.
Très bien. Merci à vous d'avoir partagé le micro avec nous. Merci à vous, Mélanie Perrault, Jean-Yves Arthur. Vous menez la lutte... je recommence. Vous menez la liste, en tout cas, sur Évreux, de lutte ouvrière.
Lutte ouvrière, merci. Faire entendre le camp des travailleurs. Merci à vous.
Merci à vous pour cet échange.